sommes-nous menacés par les ondes ? Par les ondes.
Radio. Association.
Radio. Radio Libre.
L'une de ces radios partit à l'assaut. À l'assaut. À l'assaut. À l'assaut.
Mais ça, c'est sûr que c'est pas du tout comme ça qu'on lance l'assaut. Hein.
L'assaut. L'assaut.
Radio.
Assaut.
Fréquence.
100.7.
Radio.
Assaut.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Culture littéraire. Aujourd'hui, je reçois Marc Klein. Marc Klein est un auteur photographe qui nous vient du Lot. Il habite à côté de Cahors, on va dire ça comme ça. Et puis, il a vécu quelques années en Allemagne. Il s'est engagé dans l'armée à 18 ans et il est devenu photographe en voyant les conflits. D'ailleurs, il a couvert quelques conflits en Bosnie. C'est vrai que dans les années 1990, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient bon, comme un peu aujourd'hui, un peu négatives. Mais il a certainement eu un déclic à ce moment-là pour devenir photographe. Il va nous en parler d'ailleurs tout à l'heure, photographe militaire. Et en même temps, avec la Bosnie, il est parti en Afghanistan. Il a fait aussi l'Asie et l'Afrique. Et il a couvert les populations civiles au quotidien. Il a vu un peu la misère aussi des individus, de pays, pendant la guerre aussi, pendant certaines tous ces conflits qui sont terribles, où on décentre un peu toutes ces populations. Et il a eu un déclic, voilà. Et il a travaillé aussi avec un mentor qui lui a peut-être donné quelques idées, il va nous en parler tout à l'heure, Bernard Villeroux, qui est guide international et photographe professionnel aussi. Et il a été aussi reporter avec lui en Afghanistan. Et en 2003, il fait une belle rencontre avec Reza. Reza, qui est également photographe iranien, français, d'origine iranienne. Et en 2004, Marc rentre au service audiovisuel de la présidence de la République, n'est-ce pas, française. Et là, il prend ses quartiers avec un premier président, Monsieur Jacques Chirac, au palais de l'Élysée. Et un second président, quelques années plus tard, Monsieur Nicolas Sarkozy. Et il devient le photographe, évidemment, de toutes les manifestations qu'on lui confie et tous les déplacements que ces présidents, évidemment, tant en France qu'à l'étranger. Donc, il est suivi puisqu'il avait des devoirs officiels. Il a fait ça pendant quelques années et entre 2008 et 2012, il est chargé de communication au cabinet du commandant supérieur des forces en Nouvelle-Calédonie. Et là, c'est pareil, il rencontre beaucoup de personnes et il devient correspondant à l'agence Reuters. C'est pas que ça lui suffit pas, mais à la faveur d'un déclic bien des années plus tard, c'est-à-dire en 2012, il fait des reportages d'actualité, de société, d'illustration, de portraits. C'est vrai, il travaille avec beaucoup de magazines. Et à ce moment-là, il y a des idées nouvelles qui apparaissent. Et ces idées nouvelles, Marc, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour Alain. Et bonjour, puis bonjour Lise. Sophie qui vous accompagne. Nous parlerons de votre nouveau projet en troisième partie avec Sophie. Et c'est vrai que l'été 2013, vous avez eu un déclic, Marc. Hein, vous avez rencontré Nathalie Lafont, qui a été l'inspiratrice d'un projet artistique un peu ludique, puisque vous avez écrit votre livre qui s'intitule
« Maîtresse au cœur de l'école primaire ».
Voilà. C'est l'instigatrice de ce projet et c'est une institutrice aussi, plusieurs institutrices qui ont écrit avec vous ce livre. Mais vous, surtout, vous avez pris des photos et vous allez nous raconter tout ce qui s'est passé dans cette école. Ce sont des élèves de CM2 à CM1, CM2, CP, etc., que vous avez surpris, que vous avez pris des instantanés. Vous avez mis 2 ans et demi pour écrire ce livre, vous avez pris 15 000 clichés, et il vous en est resté que 300 dans ce livre. Voilà. Donc, je pense avoir tout dit, c'est un livre ludique qui est en français et en anglais aussi, en partie, qui un jour sera peut-être traduit en allemand, on ne sait pas. Peut-être, hein, parce que vous avez vécu en Allemagne aussi. C'est un livre ludique et pédagogique, avec des textes humoristiques aussi. Et c'est très recherché, parce que en même temps, vous avez suivi les élèves de la rentrée des classes, évidemment, à la sortie. Voilà. Alors, on va essayer, avec les auditeurs et auditrices, de décrypter votre livre, puisqu'il ne voit pas les belles images que vous avez faites. Personnellement, je les préfère en noir et blanc, parce que ils sont plus percutants, et dans les années 40-50, il n'y avait pas de couleur. La couleur, c'est joli, mais le noir et blanc, je trouve, reste toujours un petit quelque chose plus distingué. Voilà, Marc. Est-ce que... Comment vous, voilà, vous êtes venu avec Nathalie Lafont déjà? Est-ce que vous avez cette belle rencontre? Allez, expliquez-nous.
Alors, concernant la rencontre, disons qu'il n'y avait rien de plus normal. Ça s'est fait à travers un repas de famille, tout simplement.
Ah oui.
Et le hasard, ou si on veut ou non, a fait qu'on se retrouvait face à face l'un à l'autre durant le déjeuner. Mm-hmm. Et du coup, bon, c'est pas difficile. Il y a une chose qui me passionne, moi, par-dessus tout dans la vie, c'est les gens passionnants qui sont passionnés, quoi, carrément. Mm. Et donc, Nathalie a commencé à me parler de son travail. Au fur et à mesure, elle m'a parlé de son école, vraiment, elle a précisé. Et surtout de son côté, de ses convictions avec lesquelles elle exerçait son métier. Et ça me fascinait parce que je voyais vraiment quelqu'un qui était vraiment impliqué. C'est un sacerdoce pour elle, l'école. Et à ce moment-là, bon, moi, elle nous est venue l'idée, vers la fin du repas, de me proposer de venir faire simplement un travail photographique pour une fin d'année, pour faire une exposition. Mm-hmm. Bon, c'est quelque chose que j'avais déjà fait une dizaine d'années auparavant, pour mes propres fils dans leur école, parce que j'aime bien contribuer.
Photo un peu scolaire au départ.
Oui, voilà, une petite histoire avec une thématique, c'est rigolo, ça fait une expo. Mm-hmm. Puis ça permettait aux parents d'élèves et à l'association d'apporter quelques fonds pour faire une sortie pédagogique. Bon, ça me tient à cœur toujours, d'éveiller les enfants. Mm-hmm. Et c'est en arrivant à cette école, en rencontrant donc la directrice Aurélie Augier et le président, donc Monsieur Savignac. Bon, quand j'ai vu l'équipe éducative, quand j'ai vu les lieux, l'école, je sais pas, c'était comme une évidence. Je me suis dit, il y a eu l'appel du livre, quoi. Je me suis dit, on va pas se limiter à faire quelque chose qui est du réchauffé, hein, pour moi en tout cas. Et j'avais envie d'aller plus loin. Alors, on a quand même fait, pour entre parenthèses, l'expo. Parce que c'était sympa, c'était pas très difficile à préparer. Mais après, il a fallu trouver un angle, une accroche pour ce livre. Et là, ça a été une longue réflexion. Et j'avais déjà attaqué les photos, mais voilà, tout s'est enchaîné.
Vous avez envie d'approfondir déjà les photos que vous aviez fait à la fin d'année, les mettre, et l'idée vous est venue, le déclic vous est venu, ben pourquoi on ne ferait pas un livre avec la rentrée, par exemple? Parce que vous êtes parti dans ce livre par chapitre, hein, vous avez fait beaucoup de chapitres, et vous les avez suivis pendant combien d'années? 2 ans et demi?
Oui, alors beaucoup de chapitres, parce que l'essentiel, c'était de montrer l'évolution.
Oui.
Et donc, il y a quand même un marqueur temps qui est essentiel à l'école primaire, c'est les saisons. Et on ne s'imagine pas à quel point c'est une référence pour les enfants, pour les élèves, quoi, comme pour les professeurs. Et c'est rigolo parce que si on y prête attention, si on prend le temps vraiment d'observer ces élèves, eh ben, c'est vraiment au rythme de la nature que la connaissance vient en eux, elle éclot. Il y a cette phase où ils reçoivent l'information.
Des cycles, en fait.
Ouais. Et où elle chemine en eux durant l'hiver. Et au printemps, bah, c'est comme la nature. On voit dans leurs yeux, ping, la lumière qui apparaît. Et voilà, ça devient évident. Et ça se met en place. Et c'est quand même ça, il fallait prendre le temps de le voir naître chez eux. Et c'est absolument extraordinaire, quoi. De voir à quel point les enfants, à leur rythme, s'éveille.
D'ailleurs, on le voit à travers votre livre, quand vous parlez de la rentrée des classes, vous les voyez tous, il y en a certains qui pleurent, d'autres qui boudent. Il y a une photo d'ailleurs qui m'a beaucoup marquée dans votre livre, c'est cet enfant qui tient la jambe de l'institutrice et un autre qui est dans ses bras et évidemment celui qui est en bas, il pleure, il implore cette dame prends-moi aussi, et puis j'ai plus maman. C'est une photo qui m'a marquée parce que c'est vrai qu'on a tous été petits et on a tous des souvenirs. Et c'est vrai que dans votre livre de photographie, ces instantanés, ce sont des flashs. Vous n'avez pas cherché à les faire poser, et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans votre livre.
Oui, alors ça, c'est une chose que j'ai appris avec le temps et surtout avec l'expérience dans le domaine de la photo. C'est que les enfants, c'est quasiment l'instantané. Il n'y a que ça pour s'exprimer vraiment avec un enfant. On ne peut pas faire poser un enfant. L'enfant, il n'en fait qu'à sa tête, en fin de compte. Et d'ailleurs, on le voit bien, plus on les dirige et plus on leur dit de faire les choses comme ça, plus ils s'opposent. Parce qu'il y a c'est les enfants. Et ce qui était difficile au départ, c'était justement, quand je me promenais avec mes appareils photo, c'était de me placer dans un endroit et de me faire accepter d'eux, d'avoir que ma présence soit naturelle.
Qu'ils ne me remarquent pas.
Ouais, ça a pris quelques semaines parce que c'était pas, au début, c'était quand même un peu nouveau pour eux. Et au fur et à mesure, on fait partie de leur monde. Ils nous acceptent. Ils viennent pleurer dans vos bras aussi quand ils sont tristes, ou bien les petits de la petite section, c'était assez mignon. Ils viennent à un moment donné, vous êtes en train de travailler avec vos appareils, eux, dans leur naturel. Ils viennent dire, tu peux me lire une histoire? Et puis ils viennent s'asseoir sur vos jambes. C'est rigolo.
Voilà, et vous prenez un peu pour Spider-Man ou quelque chose un peu. Ils vous ont accepté comme ça, puisque dans leur imagination et dans leur monde, on leur donne tellement de personnages. Eh bien, écoutez, c'est super si vous étiez Spider-Man.
Et ce qui est très intéressant, ce qui est difficile aussi, c'est de ne pas perturber le cours en lui-même.
Mais bien sûr.
Parce qu'au défaut, on est attendri par le regard de ses enfants. On rigole quand on voit certains leur espièglerie. Et le tout, c'est de rester concentré, et puis surtout de ne pas déconcentrer les professeurs.
Non, et d'ailleurs, ce que j'aime aussi beaucoup dans votre livre, c'est que l'institutrice met un petit commentaire sur chaque page, ou pendant 3 ou 4 pages. Elle explique, ou elle commente. Des mots très, très simples, mais très, très vrais. Il y a une profondeur de poésie, on va dire, aussi dans ce livre.
Oui, mais le but recherché, c'était vraiment de faire un livre ouvert. C'est un livre ouvert où on laisse parler le cœur, où on met en avant vraiment cette école de la République, où chacun a sa chance dedans, mais simplement en se posant la question. Si cet outil est encore adapté à la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment ce qu'on propose de mieux à nos enfants, aux enfants de la République, quoi, et se demander si on peut pas l'améliorer ou pas. Et donc, ce qui était intéressant, c'était d'une part de laisser vraiment les enfants s'exprimer aussi à travers des légendes qu'on retrouve tout au long du livre, mais également les professeurs, sans chercher à, en étant assez, on va dire, assez ouvert, sans chercher à vraiment critiquer ou déformer ou arranger l'affaire. C'était vraiment de parler avec ses convictions et son cœur.
Voilà, avec le cœur. D'ailleurs, vous les avez suivis aussi quand ils... C'est dans un petit village du Lot, hein, cette école, vous le situez.
L'Aveyron.
Ouais, ouais. Et vous visitez aussi avec eux la grotte de pêche Beaugneux. Vous faites des sorties. Et c'est de ces sorties, c'est toujours des photographies merveilleuses. merveilleuse, parce que vous photographiez aussi des choses dans la grotte, mais vous avez toujours un personnage qui est à côté de vous, que ce soit le portrait ou un ensemble d'enfants, ou même d'institutrices aussi, vous les prenez en photo. Et dans chaque photo, on peut lire une histoire.
Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fin de compte, c'est la phase un peu en couleur que vous avez évoquée au départ.
Oui, ce sont avec... vous savez ce que m'a dit Alain en regardant... Parce qu'il lit aussi avec moi les livres. Il m'a dit, mais regarde, c'est comme c'est joli, ces dessins. Il y a des adultes qui font moins bien que ça. On pourrait même les vendre, ces dessins, ils pourraient les vendre. Tellement ce sont des beaux dessins. La création des enfants que l'institutrice amène justement à développer et à découvrir. C'est merveilleux.
Oui, alors ces dessins, c'est quand même un peu la résultante aussi de toutes ces sorties pédagogiques qui ont été faites au courant de l'année.
Voilà.
C'était une thématique, c'était Artothèque, la thématique, et le but pour eux, pour ces enfants, c'était de découvrir sous différentes formes la lithographie, les écritures du monde, les écritures rupestres, savoir comment on a transmis la connaissance à travers le temps et comment on l'a aussi imprimé en passant par Guitain. Et donc après, ils avaient des ateliers à faire en retour. Et c'est ce que je disais aux parents aussi quand je les rencontrais. Ces sorties pédagogiques, c'est pas une sortie améliorée où on fait un goûter amélioré. C'est pas une sortie simplement ludique où on va dire tiens on va prendre l'air pendant une journée. C'est surtout un éveil pour les enfants. Et j'étais sidéré de voir à quel point c'est important. C'est essentiel pour une école de faire ces sorties-là, de vraiment les amener dans des structures qui sont prévues à cet effet. Et puis, vous les avez cités toutes les quatre, Pêche-Merle comme
oui,
Figeac.
Oui, vous avez le musée Ferraille.
Fenaille, oui, très très bien aussi.
Voilà,
ouais.
Mais quand on voit les yeux, leur visage dans vos photos, on sent qu'ils s'intéressent, qu'ils sont partie prenante. Si vous avez à Figeac, le musée de Champollion, c'est exactement la même chose, l'institutrice, vous pouvez toucher pour mieux sentir, parce que vous savez, comme les aveugles, ils ont les yeux au bout des doigts, et on leur apprend justement à travers la sensibilité des doigts, d'aller au-delà des yeux, de la vue, pour qu'ils sentent, pour qu'ils s'imprègnent aussi, même parfois de leur faire sentir quelque chose, pour qu'ils aient les odeurs. C'est vrai que le musée Champollion, avec la pierre de Rosette, c'est magnifique à Figeac. Nous y étions d'ailleurs ce dimanche avec Alain, et on n'a pas pu, parce que les heures, il y a des horaires, mais j'y retournerai, parce que dans ce musée, mais il y a tout dans ce musée. Et vous avez bien saisi, dans l'objectif, l'émerveillement des enfants.
Oui, alors, je remarquerai une chose, c'est que dans les quatre musées qu'on a fait, enfin les quatre sorties pédagogiques, ça s'appelle Pêche-Merle, Fenaille, ou bien Figeac, au musée d'écriture, ou bien Toulouse-Lautrec.
Ah oui, vous avez aussi fait
Toulouse-Lautrec. Ce qui est très intéressant dans tous ces musées, c'est qu'ils mettent en place quand même des gens incontournables, qui sont des conteurs ou des...
Conférenciers.
Des conférenciers pour certains. Il y en avait deux, ces conférenciers, Fenaille et Figeac, ça a été des conteurs. Alors là, c'est incroyable parce que ils ont le savoir pour animer justement les enfants, pour au fur et à mesure les éveiller. Et puis c'est vrai que les enfants, plus on leur donne de nourriture, plus ils vont y prendre goût, quoi.
Ah, mais vous savez que les enfants, je dis qu'ils quelquefois ils sont plus intelligents que les adultes parce qu'ils ont des questions très pertinentes. Ils remarquent beaucoup plus de choses que les adultes ne remarquent. Après, c'est vrai qu'ils deviennent des adultes. C'est dommage. On perd toujours un peu son charme d'enfant parce que l'enfant, si vous voulez, quand il se plaît ou quand il est vraiment dans sa lignée, et il est merveilleux, quoi. Il sort tout ce qu'il a dans lui. Et vous avez su saisir dans vos photographies ces instants présents. Et c'est ça la beauté de votre livre. J'avais incité les auditeurs, les auditrices d'acheter ce livre. D'ailleurs, vous serez en dédicace au centre Leclerc à Cahors,
le
9 juin. Et les personnes qui écoutent cette émission, parce qu'on va aussi jusqu'à Cahors, le 9 juin, vous serez au centre Leclerc en dédicace, de venir très en force pour acheter ce livre.
C'est l'espace culturel, oui, tout à fait.
On va faire une petite pause musicale. Hein. On va écouter une musique que vous avez choisie. Et c'est Esther Phillips avec Use Me. Thank you.
feel it's there, I wanna feel it. They keep trying to tell me, all you wanna do is use me, baby. My answer, to all of that use me stuff. Hey, just keep on using me until you use me. My sister, she set me right down and she talked to me. She told me I ought not let you just walk on me. She meant well, but when I talk was through, I said, sister, if you only knew, I know that you would steal my shoes. Just keep on using me. Hey, I tell you, use me up. I say, use me up, baby. Use me till you use me up. Sometimes it's true, you really do abuse me.
Vous êtes toujours en direct sur Radio Asso 100.7 et aujourd'hui avec Lise Anne Demey. Et aujourd'hui, je reçois Marc Klein qui est venu nous parler de son livre Maîtresse.
Au cœur de l'école primaire.
Voilà, livre pour la place de l'enfant dans l'école. C'est très, très important. Et depuis une demi-heure à peu près, nous parlons de l'éducation, nous parlons aussi des petits voyages extrascolaires que Marc Klein a eu le bonheur de prendre en instantané des photos pour les enfants et que les institutrices ont mis aussi bien en évidence des petits textes en français et en anglais. C'est un livre qui est illustré de magnifiques photos en noir et blanc et en couleur. C'est un livre qui dit tout. C'est un livre avec lequel on peut passer une merveilleuse après-midi. Je dirais que c'est un livre qui incite au voyage, mais qui aussi peut nous rappeler, nous, les personnes qui ont des fois plus de 70 ans, des souvenirs d'école. C'est pas un livre voilà, qu'on va regarder comme ça avec trois pages. C'est un livre où on a envie, page par page, d'aller plus loin. Je l'ai testé pour vous. Vous savez bien, mes auditeurs et auditrices, que tous les mois, une fois par mois, je lis les livres avant de recevoir mes auteurs. Et je peux vous dire que je sélectionne. Et ce livre-là, il est superbe à passer un moment. S'il fait pas très beau, vous pouvez le lire. Et s'il fait un soleil magnifique dans votre jardin, vous allez vous éclater, vous allez oublier un moment parfois difficile de votre vie et vous allez rentrer avec ces images dans quelque chose de merveilleux. Voilà, Marc, ce que j'avais aussi envie de dire de votre livre. Et chaque fois que vous faites des sorties avec les enfants, ça doit être un grand bonheur. Le matin, vous préparez votre sac et puis vous en allez avec eux.
Oui, alors pour moi, c'était un grand bonheur, forcément, parce que...
Ils commençaient à vous connaître au bout de deux ans.
Ah ben, ils commençaient à bien me connaître, même. Et puis, d'ailleurs, l'équipe éducative aussi. Donc, c'était rigolo. Et je faisais un peu les bêtises de certains. Je les maquillais un peu, donc c'était drôle. Et si c'était...
Ah ben, bien
on
sûr.
On partageait un peu de complicité avec tous ces élèves.
D'accord.
Donc, c'est ce qui reste derrière. C'était croustillant pour les élèves et pour moi. Pour les professeurs, il leur fallait un peu plus de patience, c'était drôle.
Vous étiez revenu un petit peu comme à 7-8 ans, un petit peu un grand enfant.
Mais à leur contact, de toute façon, c'est difficile de rester figé ou insensible. Je veux dire, ils sont tellement drôles et surtout tellement intelligents, vous l'avez évoqué à un moment donné, mais c'est ça qui m'a un peu surpris quand même. Quand on quitte l'école, en général... qu'on attaque et qu'on revient, on a oublié à quel point les enfants, les élèves, mais sont intelligents, simplement intelligents de cœur et d'esprit. Et il y a juste à les orienter, les éveiller davantage dans certains domaines. Mais ça se fait naturellement.
Vous savez, quand on écoute les enfants, il y a des enfants qui sont tellement pertinents, qui sont étonnants. Hein. Ils ont des façons de. C'était Jacques Martin, d'ailleurs, à la télévision, qui les faisait parler. Et par moments, mais c'était croustillant, quoi. Il y avait une vérité dans ce qu'ils disaient. Et si vous dites, il ne faut pas le dire, c'est là où ils le disent.
Hein. Ah oui.
En fait, vous saviez tout, quoi. Le matin en arrivant, vous étiez déjà dans les confidences. Mais c'est vrai, c'est normal, puisque vous avez aussi, dans votre livre, un chapitre sur la bibliothèque. Donc, vous étiez une véritable bibliothèque ambulante.
Oui, et puis la bibliothèque, c'est quand même un symbole important, surtout aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde où il n'y a que des écrans, où il y a le multimédia, où d'ailleurs les adultes, qui que ce soit, on écrit de moins en moins. Pour preuve en est, quand on voyage la carte postale, qu'on n'envoie plus systématiquement, mais on va faire une photo, on va l'envoyer via les réseaux. Et la bibliothèque, je trouve que c'est... Alors ça, c'est pour moi, c'est même pas essentiel, c'est fondamental. Je trouve le livre, c'est incontournable. Et donc, je trouve... J'ai trouvé ça fantastique que cette école, bon là c'était le cas pour cette école-là, mais amène les enfants, et d'autres le font aussi, parce que j'ai pu dans mon tour de France un peu vérifier ça, les amène vers la bibliothèque pour leur faire découvrir des ouvrages, d'autres ouvrages, et simplement les faire lire pendant une petite heure à tous les niveaux, les cycles 1, 2 et 3. Et ça aussi, c'est comme tout, c'est que si on propose aux enfants un livre, ça devient un objet banal, anodin. Parce que si on ne leur propose pas, forcément, ils vont se rabattre sur ces jeux, sur les tablettes, et puis être dans la suffisance. Et je trouve que c'est quelque chose... Je tenais à le mettre dans le livre pour rappeler que vraiment, ça fait partie, à mon sens, du cursus de l'enfant. Normalement, ça se fait... Les parents le font déjà chez eux, quand on lit l'histoire le soir à nos enfants avant qu'ils s'endorment, mais c'est peut-être pas généralisé.
Mais on le voit de plus en plus, même dans les salons du livre, les enfants attirent les parents. Maman, je veux ce livre. C'est très curieux. Les jeunes, là, la nouvelle génération, elle lit de plus en plus. Elle est très attirée, justement, par cette découverte de livres. Et vous savez, autrefois, nous avions l'éveillé. On les a pu l'éveiller. Mais vous avez dû remarquer que de plus en plus, il y a des écritures, des écrivains, il y a de plus en plus de livres.
Oui, alors non
donc,
seulement il y a de plus en plus de livres.
Donc ça veut bien dire qu'il y a un attrait quand même pour les livres.
Et la bande dessinée aussi, ça touche énormément les enfants. Et on peut faire passer beaucoup de messages de société, de vie. C'est très intéressant. Et là justement, j'avais envie de faire un petit clin d'œil. Ça me vient là, à l'instant, quand vous l'évoquez. L'année dernière, au mois de mai, j'ai été invité par l'association Réel à Montauban, justement, pour le livre, le Salon de la Jeunesse et du Livre. Et là, vraiment, ce que vous dites, c'était vrai. Je voyais vraiment les enfants courir de partout avec leurs parents. Et ils n'en avaient pas assez des livres pour en mettre dans les bras. Quoi.
Ah oui, maman, je veux. Mais on le voit. C'est ça, justement, qui est merveilleux. Parce que ce sont la nouvelle génération qui ramène leurs parents à des choses plus essentielles qu'on a oubliées. Parce qu'on n'a jamais le temps, maintenant, de prendre le temps, je vais faire un planasse, de lire. Et pourtant, c'était sympathique de se mettre dans un transat.
Et puis, la bibliothèque, c'est un peu la brocante de la connaissance.
Bien sûr. C'est joliment bien dit, Marc.
Voilà. Hein.
Bon, eh bien, écoutez, on va terminer un petit peu ce livre avec la kermesse, hein, et puis l'équipe, évidemment, éducative, mais la kermesse de fin d'année, où là, tout le monde doit se lâcher, tout le monde doit, avec votre livre, c'était aussi magique et merveilleux.
Oui, il y a dans le livre, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est « passeur de savoir ».
Ah oui.
Ça, je trouve, c'est très intéressant. C'est lié aux instituteurs, à tous ceux qui apportent quelque chose, cette connaissance. Parce que quand j'ai lu ça, j'ai trouvé que c'était...
Disons que c'est un terme que je trouvais non seulement approprié, mais que je pense qu'on peut transposer aussi un peu à tout le monde, quoi. Mmh. Je veux dire à tous les adultes, et ou même dans les deux sens. Enfin, je pense que c'est important que ça soit la connaissance, que ça soit le respect, que ça soit l'amour, ça va dans les deux sens. Ça va pas que dans un seul sens. Et les passeurs de savoir, c'est vrai que ils ont un peu cette mission, les professeurs des écoles. Elle est un peu méconnue ou mésestimée, mais on s'imagine pas aujourd'hui à quel point cette profession, je dirais presque, ça va surprendre ce que je vais vous dire, mais elle lutte un peu pour maintenir une qualité pédagogique en place, parce que tout n'est pas vraiment fait, je pense, hein, à travers ce que j'ai pu entendre et voir durant mon errance un peu sur le territoire. Tout n'est pas fait pour leur faciliter les conditions de travail. Et ce qui est dommage, c'est que les audits qui sont faits donc par l'institution ne sont pas forcément. On retient pas, on n'applique pas les leçons, et surtout une chose que je trouve dommage. Ça paraît un peu idéaliste ou utopiste, mais quand on fait ces audits avec les profs, c'est très bien, mais à aucun moment, on demande aux enfants, on fait venir quelques délégués de classe, mais même à leur niveau, et simplement d'une façon très simple, on leur demande comment ils voient l'école. Mmh. Ça me paraît tellement évident de le demander aux enfants, puisqu'ils sont les premiers intervenants.
Mais vous savez, avec Alain, en lisant votre livre, la réflexion que nous avons eue, parce que nous avons été parents, bon, maintenant nous sommes grand-père et grand-mère, mais on s'est dit, mais tu te souviens ta première institutrice ? C'est vrai que moi j'étais dans une classe de trois divisions, alors les anciens vont se rappeler de ça, mais nous apprenions beaucoup de choses et nous ne faisions pas de faute de français ni d'orthographe. Il faut savoir que nous sommes d'une génération 5 fautes 0, hein, et une virgule était prise pour un quart. Vous voyez où on en est maintenant. Et à la petite école, les institutrices nous apprenaient à lire, mais d'une façon merveilleuse, avec les moyens de l'époque. Mais quand on sortait de CE2, je dis bien de CE2, nous savions lire et écrire impeccablement. Vous savez que le certificat d'études d'autrefois représente un bac bien au-delà même. Hein. Les anciens qui ont suivi, bien sûr, il y a toujours des élèves qui avaient du mal à suivre. Mais je peux vous dire que la moyenne d'une génération où il n'y avait pas de faute d'orthographe. Et ça, moi, ça me choque en tant que grand-mère. Moi, j'ai des grands de 17 ans qui font des fautes à tous les mots. C'est vrai que les institutrices d'autrefois, elles ne faisaient pas grève.
Et il faut remarquer une chose aussi,
pour
parler de ça, c'est que ce qui est étonnant, c'est je suis un peu déçu de voir ce manque d'envie de nos élites à faire justement évoluer ou pas le système de l'éducation nationale à travers l'école qui est l'école primaire, parce que c'est quand même l'école essentielle pour de la vie. Hein. Et justement, moi, ce qui m'a aussi fait faire ce livre, c'était un peu un ras-le-bol d'entendre tout et n'importe quoi. Oui. Sur la laïcité, on nous l'a servi à toutes les sauces. C'est comme ça arrangeait chacun et chacune. Mais aussi, les méthodes, on évoquait des méthodes pédagogiques différentes.
Oui, il y a eu la méthode globale, je crois, qui a tout un peu.
Et encore, ouais, voilà.
C'est du tout et de n'importe quoi, parce qu'autrefois, c'était B.A.B.A. et c'était B.A.B.A.
Voilà.
Le A était associé aux lettres et c'était beaucoup plus facile pour les
enfants. Et à aucun moment, on s'est soucié de savoir si c'était adapté ou pas à l'enfant.
Ah non.
Ce que je comprends, Ce qui m'a fait vraiment un cri du cœur, il vient un peu de là aussi, c'est quand, bon, je me suis appuyé sur un rapport qui était vieux de 2007, mais voilà, dans lequel on nous dit bien que depuis plus de 25 ans en France, il y a quand même 40% d'échecs, c'est-à-dire d'échecs scolaires dans l'école primaire française. Alors c'est quand même, à mon sens, assez grave, parce que ça représente 300 000 enfants par an. Et donc, arriver en sixième, ce que vous évoquez avec l'orthographe, les mathématiques, les fondamentaux ne sont pas acquis. Et ça, c'est su.
Pour ça qu'ils ne peuvent pas apprendre l'anglais ou d'autres langues, ils ne savent pas le français. Donc, ils ne savent pas les règles françaises, donc, évidemment, de la grammaire française. Donc, ils ne peuvent pas apprendre, évidemment, une autre langue. C'est ça un peu le souci. Eh bien, écoutez, on va
faire une petite pause musicale.
Une petite pause musicale, et après, nous reviendrons pour parler de vos projets.
Et on va écouter Cannonball Adderley. Merci, merci, merci. Thank you.
Voilà, toujours en direct avec Lise Anne Demey. Merci beaucoup à la régie. Je reçois aujourd'hui Marc Klein, qui est auteur d'un joli livre de photographie. Mais je tiens aussi à dire au passage qu'il est saxophoniste. Voilà. Et il joue évidemment du saxo. C'est pour ça qu'il nous a choisi de la belle musique. Et or, dans le studio, il nous disait sol, do, ré, mi. Voilà. Alors, c'est adorable. Merci beaucoup, Marc. En même temps, vous avez choisi de la belle musique. Voilà. Marc, on va revenir à vos projets, vos nouveaux projets. Vous avez invité aussi, et nous avons invité Sophie, qui est à vos côtés. Je pense que vous allez faire quelque chose en binôme. Vous êtes en train d'écrire des livres, des projets. Voilà. Donc, vous allez nous en parler tous les deux. Marc, je vous laisse la parole. Ou Sophie, voilà, expliquez.
Alors voilà, comme tous les projets, il faut une rencontre, il manque le déclic. Alors donc, je disais, pour maîtresse au cœur de l'école primaire, le déclic, ça a été avec Nathalie Lafont. Et 2 ans après, donc justement l'année dernière, lors du Salon du Livre de la Jeunesse avec l'association Réel à Montauban, ma voisine qui exposait son propre livre, donc elle le présentera aussi, Sophie, on s'est croisés, puis on a eu 2 jours pour faire connaissance, et puis donc regarder ce que chacun faisait, parce que là, il faut toujours rester curieux avant toute chose. Et d'un seul coup, en regardant, je crois, mes photos africaines, ça l'a interpellé. Et on a parlé de l'Afrique, on a parlé de mon regard africain, de mon ressenti, parce que je suis passionné par ce continent.
Oui, puis vous étiez photographe aussi.
C'est un continent qui me fascine. Et du coup, je lui ai envoyé quelques images correspondant au dernier bushman d'Afrique, qui sont les Hadzabé. Et ça a été une rencontre, ça a été la rencontre. Pourtant, ça fait 25 ans que je voyage, que je visite le monde, que je rencontre des gens de tout horizon. Ça a été, en termes de bonté, ça a été le coup de grâce, quoi. Et quand je suis revenu, j'avais ça dans mon paquetage, toutes ces photos de ces Hadzabé. Et je me suis dit, en aucun cas, elles sortiront sans y mettre le verbe, sans y mettre la poésie ou sans y mettre de l'art. Vraiment quelque chose de profondément humain dedans, ce que j'ai ressenti avec eux les quelques jours que j'ai passés auprès de ces clans. Parce que c'est des petits clans, ils ne sont plus qu'un millier dans le sud de la Tanzanie, ou dans le nord, pardon, avec la frontière du Kenya, mais ils évoluent par petits groupes, parce que comme ils se nourrissent encore que de chasse et de cueillette, donc c'est difficile pour eux d'être trop nombreux, et voilà. Et du coup, j'ai envoyé quelques photos que j'avais faites, réalisées avec ces Hadzabé, et Sophie, à ce moment-là, m'a dit, je pense que je suis inspiré pour écrire des odes ou tout. Et d'ailleurs, elle va en parler.
Idées.
Voilà, alors, les idées sont venues naturellement. Ça a été la rencontre.
Votre nom, Sophie.
Sophie Martin-Devet.
Voilà.
Oui, alors donc, lors de cette rencontre, c'était une rencontre humaine entre Marc et moi, et puis une rencontre aussi avec les Hadzabé que je méconnaissais totalement. Et à la vue de ces photos, moi j'ai reçu une émotion très forte que j'ai voulu retranscrire en mots. Et j'ai ressenti une espèce de musicalité. Donc j'ai commencé à écrire quelques mots que j'ai envoyés à Marc et qui a été, semble-t-il, séduit par ces mots qui correspondaient à ce que lui avait envie de dire, mais que lui avait dit en photo, en fait. Et de là, cette idée d'associer nos talents respectifs, de les mettre en commun et pour écrire ce livre sur des hommes qu'il a connus, que moi je ne connais pas et dont je parle avec mes mots, moi.
Donc vous allez avoir en commun un livre photo et en même temps toujours avec l'écriture.
Voilà, donc moi je m'occupe de l'écriture, en fait.
Voilà. Et Marc s'occupe des photos. Très bien.
Voilà, c'était des photos qui existaient déjà. Marc avait ce projet-là, il attendait ses mots, et puis voilà, ses mots sont venus.
Donc vous allez le faire en binôme, ce livre?
Tout à fait.
Ça va être super, ça. Donc il est en projet, ou il est déjà bien amorcé, ou vous attendez un éditeur ?
Voilà, là nous avons... les photographies existaient déjà, il s'agit aujourd'hui de faire une sélection en duo, qui correspondent à ce que l'on a choisi de mettre en lumière, et puis qui correspondent aussi avec les mots que nous avons choisis également. Et ça, tout est là.
Ça va être super. Donc pour Marc, ça va être un deuxième livre, n'est-ce pas ? Et pour vous, ça va être le...
Alors moi, j'ai déjà publié 2 ouvrages.
Voilà.
Et lors de la rencontre, alors j'ai publié, j'ai une thèse d'histoire de l'art qui a été publiée. C'est une thèse d'histoire de l'art sur Georges Sand et la peinture.
Ah, Georges Sand, ça c'est ma passion, ça.
Voilà, je suis spécialiste.
Vous reviendrez.
Merci beaucoup. Et d'autre part, j'ai eu la chance aussi d'avoir ma première pièce de théâtre publiée aux éditions Séguier. Et nous nous sommes rencontrés sur le salon avec Marc parce que j'initie une collection pour les enfants, une collection philosophique, où j'écris les textes et je fais les illustrations de mes ouvrages. Mmh. Voilà.
Oui, il y a beaucoup de belles choses en prévision et le livre en binôme va être un bouquet de fleurs magnifiques ou un bouquet d'images africaines et de textes sublimes, je pense, et j'en suis convaincue.
Merci.
Donc, c'est prévu pour quand cette sortie en fin d'année ou,
ça dépend des éditeurs.
Oui, voilà, nous sommes en recherche d'éditeurs. Maintenant, nous sommes dans la phase de recherche d'éditeurs, mais il est vrai que nous sommes finalement assez confiants. Enfin, déjà, nous savons que le projet est né.
Oui.
Donc, il suffit juste que maintenant, il soit vu.
Déjà, dans votre tête, vous avez tout mis en place, tout bien cadré. Ça, c'est important. Puis l'éditeur, effectivement, va venir très rapidement. Et puis, vous viendrez nous en parler tous les deux quand vous aurez un nouveau livre à Radio Asso dans l'émission Culture littéraire.
Moi, j'ai eu la chance d'avoir les photos.
Oui,
l'année dernière. Et elles sont très, très belles. C'est lumineux. Il y a un contraste et... C'était incroyable. D'ailleurs, c'était la première fois qu'on s'est rencontrés. Et puis, il s'est passé quelque chose. Et voilà, j'ai trouvé que c'était sympathique.
Et puis,
avant de partir, j'ai vu les photos. Ça sera un très, très beau livre. Je pense que ça va être un ouvrage qui va encore faire découvrir autre chose. Et
déjà, c'est prometteur parce que le livre de Marc est sublime. Alors, l'autre, qu'est-ce que. Avec d'autres images, d'autres paysages aussi, et de portraits, parce que c'est quand même très spécifique. C'est l'Afrique, hein, là, c'est uniquement l'Afrique. Donc,
ça donne envie d'aller là-bas.
Ça donne envie d'aller.
Oui, c'est l'Afrique, et en même temps, on va là... Comme partout, que ce soit l'Afrique, l'Asie, n'importe où, on va à l'essentiel, c'est la vie, quoi. Je veux dire, il y a vraiment, il y a l'essence même de la vie dans ses regards. À la fois, il y a de la virilité dans leur regard, mais on sent qu'il y a une âme énorme, généreuse.
Ils n'ont pas la même façon de voir les choses que sur les continents ou dans des pays un petit peu plus où on est plus chargé ou taxé de choses. Là-bas, ils vivent plus avec les saisons, puis des choses très simples. Vous amenez avec des crayons de couleur et des cahiers, mais là-bas, c'est des cadeaux magnifiques. Ici, vous donnez un crayon de couleur, des cahiers, l'enfant va... Bon, certains vont vous regarder en disant, bof, ça ne m'intéresse pas. Là-bas, un cahier de coloriage, c'est un trésor, c'est magique.
D'ailleurs, ils étaient fiers de poser sur les photos.
Oui, puis on
en avait parlé.
Oui, voilà. Ouais, ils étaient très fiers.
De
mais ça, je pourrais en reparler.
On parlera du regard. On va
il y avait plein de choses intéressantes.
Décrypter le nouveau livre.
C'est pour donner un avant-goût.
Voilà, nous avons voulu mettre l'accent aussi sur l'humanité, en fait, une humanité commune à tout le monde.
Tout ce qui est humanitaire. Et puis, voilà. Eh bien, est-ce que vous allez dédicacer, Marc, je reviens sur votre premier livre. Alors, donc, tout à l'heure, on a parlé à Cahors. Vous serez au Centre Leclerc de Cahors.
L'espace culturel,
ouais. Allez-y, dites.
Le 9 juin.
Alors le 9 juin, c'est l'espace culturel de Cahors qui d'ailleurs depuis le début depuis le lancement du livre m'a toujours bien accompagné, ainsi que l'espace culturel de Montauban, la responsable Delphine Trochet.
Oui.
Donc qui est vraiment, qui est remarquable, qui tend la main, je crois, à tous les auteurs connus ou méconnus, mais c'est vraiment quelqu'un que je remercie aussi officiellement.
Voilà, mais on peut.
J'avais quand même un clin d'œil à faire, ça va peut-être faire sourire certaines personnes, mais je tenais vraiment à remercier mes fils et surtout mon épouse, parce que je suis du genre plutôt très pénible et maniaque. Et donc, quand je suis dans un projet, malheureusement, je focalise dessus.
Quand
je ne pense qu'à ça. Il n'y a plus rien qui existe, matin, midi et soir. Et je peux vous dire qu'elle a dû me supporter pendant 2 ans, où tous les matins, je me levais avec d'autres images en tête, avec d'autres textes, avec d'autres mots, avec d'autres angoisses, avec des doutes.
Et votre appareil photo.
Ouais. Et donc ça a été un cauchemar, je crois, pour elle. À la fin, donc je voulais vraiment la remercier.
Elle est infirmière d'ailleurs.
Oui, infirmière libérale dans la région du Quercy. Là.
Voilà. Vous pouvez donner votre. Vous avez un site pour regarder vos livres ?
Oui, alors pour les auditeurs, c'est pour se connecter, c'est simple, si vous allez sur www.marcklein.fr, simplement.
Klein, c'est K-L-E-I-N.
Voilà, hein, M-A-R-C-K-L-E-I-N. Ou bien ils tapent Marc Klein photographe sur Google, et là, ils iront directement sur la page, et le livre est en présentation, et c'est très simple après. Voilà.
Et on peut vous suivre dans vos dédicaces, on peut vous suivre...
Oui, ils peuvent intervenir, évidemment, et puis pour les plus curieux, ils peuvent s'envoler sur la page au reportage ou autre, et puis voilà, ils iront faire du bien avec de la lumière.
Ils pourront réécouter aussi cette émission dimanche soir sur Radio Asso, sur votre page, sur la page aussi de Facebook de Radio Asso, et sur aussi
www.armovisanté.fr.
Voilà. Et puis Sophie, si vous avez un site, vous pouvez, parce que vous allez mettre aussi cette émission sur votre site, vous n'en avez pas. Ah, il va falloir nous en faire, hein, Sophie, parce que si vous venez à Radio Asso, il faudra songer. Voilà. Eh bien, moi, je vais vous remercier tous les deux d'être venus du Lot, et pour Sophie de Montauban. Et puis Sophie, on aura l'occasion de la retrouver vers la fin d'année pour nous présenter un petit peu ses livres.
Je vous en remercie.
Et puis vous, Marc, moi, je vous remercie infiniment. Je vais vous dire bonne route. De toute façon, on va se retrouver prochainement dans beaucoup de choses, dans beaucoup de projets aussi. Sophie aussi. Et puis, je vais passer pour l'agenda.
Alors, l'agenda, il y a une petite surprise. Je l'annonçais, puisque c'est Nicolas qui a demandé à faire l'agenda. Marc va comprendre. Alors je vais laisser la place à Nicolas. Puis écoutez, ça me fait plaisir. Je suis content d'être à Radio Asso. L'heure est bien le mardi 22 mai. T'es gentil, Marc, t'es gentil. Le mardi 22 mai, dans Culture littéraire, vous allez retrouver Bernard Maoux, écrivain. Voilà, je l'ai dit. Et puis sinon, le mardi 17 avril, puisque vous me demandez, ben, je vais vous le dire, vous allez recevoir Edmond Puyreau. Il était comme moi, il était président, mais de la Fondation de l'Écojardin des Roches. Voilà, et tout ça, c'est à 14h. Je vous fais un petit coucou, Marc, et je dis à bientôt.
Et ça, c'est dans Chronique Santé.
Oui, mais il est parti. Il est parti, donc ça, c'est Chronique Santé. Et puis la première, c'est Culture littéraire, voilà.
Et surtout, merci à vous deux d'avoir mis ce livre en lumière. Et puis surtout,
Radio Asso aussi. Et... qui est toujours présent, qui fait tout ce qu'il peut, voilà.
Même quand il est en retard.
Voilà, et je ferai un petit clin d'œil à tous ces élèves de l'école de Villeneuve d'Aveyron. Mm-hmm. Pour les plus grands qui, maintenant, sont déjà en cinquième, voire en quatrième, parce que ça va vite, l'horloge tourne. Et je les salue de loin, je leur fais un petit clin d'œil et j'espère qu'ils seront heureux d'entendre ces quelques mots à la radio. Quoi.
Voilà, je pense qu'ils vont l'être. Merci à vous deux, merci, à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci Hugo.
À bientôt.
Quand on a annoncé au président Chirac qu'il ne pourrait pas écouter Radio Association lors d'un de ses voyages officiels, sa réponse ne s'est pas fait attendre. Et nous, ben, on le comprend. Radio Asso, 100.7 FM à Montauban.